Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. C'est une belle journée qui se prépare avec du soleil. Quelques nuages ce matin, c'est autour de 12 degrés. Et le maximum prévu aujourd'hui, 22 degrés. Pour la soirée, ciel dégagé, avec un minimum de 10 pour la nuit. Et demain, pour clôturer la semaine, c'est du soleil, des nuages au cours de l'après-midi, avec un maximum de 21 degrés. Et l'aperçu pour le week-end, là, c'est un peu plus sombre, si on veut. Alors, autant samedi que dimanche, Environnement Canada qui prévoit du temps couvert. Il y aura peut-être de la pluie, mais rien d'important. Puis des températures sous les 20 degrés, entre 18 et 19 degrés. Alors, c'est un week-end un peu plus frais, un peu plus gris, mais pas de quantité importante de pluie au menu. Et quand on parle de l'effet de l'ouragan Dorian, évidemment, pour le Canada, c'est davantage dans les maritimes, peut-être un peu les îles de la Madeleine. Mais je regarde ici, là, il n'y a rien qui va nous toucher, même pas des pluies. Ça passe beaucoup plus dans le secteur des maritimes. Et puisqu'on parle de l'ouragan Dorian, alors là, évidemment, il a repris de l'intensité. Il est tombé catégorie 2 et redevenu un ouragan de catégorie 3 et avance lentement vers les Carolines. On pense que dès la soirée, fin de soirée, on pourrait toucher des villes comme Wilmington, Caroline du Nord, ou Charleston aussi, qui pourrait être touché. Et il y a des avertissements qui ont été donnés pour toutes les villes à partir de Daytona Beach, et on s'en va jusqu'en Virginie comme ça, où là, il pourrait y avoir des précipitations abondantes ainsi que des vents violents. Alors voilà pour ce qui est de ce parcours de l'ouragan Dorian. Je reviens juste pour vous dire, après l'intervention de Marie-Laurence et de Marc sur le transport scolaire, toujours à la fois étonné, puis en même temps peut-être pas tant que ça, de voir la réaction des gens autour d'un autobus scolaire. Puis je me mets à la place des chauffeurs qui ont la responsabilité des enfants qu'ils transportent. Et ce qu'ils décrivent, et je sais que c'est vrai, là, de voir les gens passer malgré les clignotants jaunes, malgré le stop rouge allumé, la barrière, là, c'est comme si ça n'existait pas. Je me suis déjà fait klaxonner parce que je ne voulais pas dépasser l'autobus qui était stationné, immobilisé. Comme je vous dis, à la fois, ça ne m'étonne pas, puis en même temps, je suis toujours bouche bée devant ça. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Puis je me rappelais, on avait un sondage hier matin, à la blague, sur le niveau de patience des gens. En fait, on devrait dire l'impatience des gens. Si c'est pas réglé en une minute, on a un problème puis on devient un peu agressif. Et c'est des trucs qui sont dans le quotidien. Ça a l'air insignifiant quand on en parle comme ça. C'est quand on dit que si après 28 secondes, l'eau bouillante n'est pas prête, on trouve que c'est long. On se met debout devant le toaster, puis on attend, puis ça sort pas assez vite. T'sais? Et là, je lisais plus à fond un peu là-dessus, cet article-là, qui racontait des experts, là, qui disaient que les gens, dans l'espèce de niveau d'impatience qu'on a, auraient augmenté, doublé, triplé depuis peut-être une vingtaine d'années, d'après des études similaires. Puis on est stressé, puis on est écœuré d'être pris dans le trafic, puis on attend, puis on attend, puis on devient comme... Alors, dès qu'on a une chance, si on pouvait stationner l'auto dans l'école pour débarquer le petit, on le ferait. Il y a des gens, là, qui se disent, mais il peut marcher, le petit, là, quand même, un coin de rue, c'est pas grave. Non. Puis là, si tu dis à ce parent-là, je me souviens d'une école qui avait interdit aux parents de stationner leur voiture dans l'espèce de passage à l'entrée. Parce que là, tout le monde bloquait, puis ça devenait dangereux pour des enfants qui s'en allaient à pied. Des parents furieux qui disaient « ça n'a pas de bon sens, puis pourquoi vous m'empêchez, puis je paye des taxes. » Et j'avais échangé avec la directrice de l'école qui avait dit « moi, je fais ça pour protéger les enfants. » Non. Et là, ça se dépêche en plus de ça. Alors, on parle de ça pourquoi ce matin? Bien, pour faire un rappel, pour juste vous dire que là, il est quoi, 6h06. Peut-être en train de préparer les enfants. Ils vont aller au service de garde. Puis après ça, c'est l'école. Puis vous allez croiser en vous rendant au travail des autobus scolaires. Juste avoir ça en tête, qu'il y a des enfants à l'intérieur. Puis de respecter la réglementation. Puis là, je sais que le SPVM va faire une opération. Je pense que c'est demain. c'est peut-être ce matin, là, mais en tout cas, bref, dans les prochains jours, il y a des opérations menées par le SPVM là-dessus. Je veux vous parler de ces études concernant les liens entre les pesticides et certaines maladies. C'est la Fondation David Suzuki qui va présenter un mémoire à la Commission de l'agriculture à Québec, là, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, lors des consultations sur l'impact des pesticides. On sait que tout ça a été créé dans la foulée du congédiement de l'agronome Louis Robert et de son embauche, sa réembauche par la suite. Alors, on sait que Louis Robert était un sonneur d'alerte des conflits d'intérêts entre la recherche sur les pesticides et des lobbies, évidemment, qui poussent la vente de pesticides. Et ce qui est clair, c'est aussi qu'il y a des façons de faire autres qui existent. Alors, donc, dans le cadre de cette commission parlementaire, la Fondation David Suzuki arrive et demande que l'on bannisse, ou en tout cas qu'on puisse restreindre l'utilisation de pesticides, que ce soit pour les fermes, que ce soit pour l'usage domestique. Et on prétend que de plus en plus de doutes, mais en même temps un certain nombre de certitudes qui émergent entre l'utilisation de ces pesticides et des maladies comme la maladie de Parkinson. On parlait de Pierre Nadeau qui est décédé. Et moi, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je suis convaincu de ça, pour avoir parlé avec des médecins qui ont fait des recherches. Mon père a développé le Parkinson. Il est mort des suites du Parkinson. Mon père était agronome, passait sa vie à se promener donc sur les fermes, dans les territoires agricoles. Et je parlais également avec un ami qui, un de ses amis qui avait déménagé dans le secteur des vergers où il y avait beaucoup de pesticides qui étaient utilisés et avait développé la maladie de Parkinson. Je ne dis pas que les pesticides donnent la maladie. On peut être prédisposé et la présence de ces pesticides, je suis à peu près convaincu, vont déclencher la maladie. Là où c'est plus flou, ça concerne l'autisme. Dans le cas de l'autisme, est-ce qu'on fait un lien entre pesticides et autisme? Il semble qu'il est un peu trop tôt. Il y a peut-être des liens, mais en tout cas, rien d'aussi clair que dans le cas du Parkinson. Donc, c'est plus vague. La relation entre la maladie de Parkinson et les pesticides est claire depuis des décennies, dit le docteur Ron Postuma, qui est neurologue et qui a commenté cette étude dans Le Devoir. Il dit, pour ce qui est des autres maladies, on peut dire que c'est plus difficile à établir pour l'instant. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les pesticides qui sont en cause dans la maladie de Parkinson. Alors, c'est sûr que je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et je sais que, pour avoir parlé, puis recevoir beaucoup de courriels des producteurs agricoles, ils disent, écoutez, on fait ça de façon responsable, c'est pas pour rien. La question n'est pas là. La question, et c'est que de plus en plus, bon, on voit la Ville de Montréal là, qui veut interdire l'usage de ces pesticides sur, par exemple, les espaces verts ou encore terrains de golf qui relèvent la ville, puis on veut l'interdire complètement. Alors, c'est sûr qu'il y a une préoccupation. On cherche toujours des liens entre l'environnement et certaines maladies, que ce soit des cancers, que ce soit des maladies comme le Parkinson. Et je pense qu'il y a des liens qui existent. C'est vrai que, par exemple, les habitudes de vie ont un impact direct sur votre santé. Mais c'est vrai aussi que l'environnement dans lequel on évolue a un impact direct sur notre santé. Et là, ça commence à se préciser. Dans Le Devoir, ce matin, vous pourrez lire ça, c'est super intéressant. 6h12, Marc, les points chauds pour ce début de journée.
Quelques problèmes, oui, sur le réseau routier. Tout d'abord, le tour des Laurentides à partir de Sainte-Thérèse, c'est au ralenti pour traverser à Laval. Par la suite, on va reprendre le rythme, mais à Montréal, avant de Salaberry, en passant par Henri-Bourassa jusqu'à la métropolitaine, c'est beaucoup plus lent. La 13 en direction sud, mi-chemin entre Dagenais et 440, c'est jusqu'à Notre-Dame-Sanson. 640 vers l'est à partir de la 25e avenue. La 25 Terrebonne, de plus en plus de congestion. Ça se passe tout juste après l'échangeur de la 640. Donc, si vous arrivez de la 640, vous allez pouvoir intégrer la 25. Mais dès que vous arrivez sur la 25, on va commencer à ralentir et il y aura de la congestion jusqu'au pont de l'Île-Saint-Jean. La 40 Repentigny, on me donne du retard près de Benjamin-Moreau, c'est entre Brien de La Rochelle, légère amélioration de ce côté. Rive-Sud vers Montréal, il n'y a pas grand problème. De la résistance 132 vers Mercier, les autres traversées, ça va. Métro de Montréal, interruption de service sur une partie de la ligne orange entre Beaubien et Montmorency. C'est en raison d'un dégagement de fumée. On va suivre cette situation. Et le prix de l'essence aujourd'hui, qui est à 1,23 $ le litre d'ordinaire.
Bon, on va parler de l'UPAC, on va parler de l'affaire Guy Ouellet. Le mystère s'épaissit, comme on dit. J'ai vu la presse qui, hier, a sorti cette nouvelle pas une suspension comme telle, c'est une réaffectation à d'autres tâches d'une lieutenante. Et donc, c'est une haut gradé de la Sûreté du Québec qui aurait faussement orienté l'enquête menée par l'UPAC concernant Guy Ouellet. Le Journal de Montréal nous dit ce matin que, selon les documents officiels qu'ils ont obtenus, des dérapages présumément commis par l'UPAC. Et là, on n'a pas grand-chose. On parle d'une policière qui aurait orienté faussement l'enquête et de façon entravée le travail d'enquête des policiers assignés au dossier. Je vous le dis depuis le début. C'est une affaire tout croche. L'affaire Guy Ouellet, on ne connaît pas tous les détails. On en soupçonne quelques-uns. Mais on n'a pas tout ce qu'il faut là, pour comprendre. Mais il y a une affaire qui est certaine. Ils n'avaient rien sur Guy Ouellet. Ils sont allés à la pêche et ils se sont plantés. Ils l'ont arrêté pour rien. Ils l'ont accusé avec rien. Et ça s'est complètement effiloché. Et Guy Ouellet a été marqué par ça, évidemment. Il y a un préjudice qu'il a subi. Et c'est basé sur une opération policière qui, on le voit de plus en plus, était concoctée sans éléments de preuve solides. Je rappelle qu'on cherchait le responsable des fuites aux médias. J'ai toujours eu le plus grand des respects pour l'UPAC. Mais ça semble un règlement de compte. L'autre affaire, c'est Nathalie Normandeau. Juste rappeler qu'on l'a arrêtée le jour de la présentation du budget et que là, ça traîne depuis plus de 3 ans. Et que là, on laisse tomber, vendredi, avant la fête du congé de la fête du travail, on laisse tomber les accusations, puis on dit, le reste, on est solide. Et moi, quand j'entends le DPCP me dire, ouais, on est solide. Puis 2 mois après, un petit peu moins solide. Puis 3 mois après, le genou à terre. Et là, je vais faire un pari avec vous. Je suis convaincu que soit que Mme Normandeau sera acquittée, ou encore qu'on va retirer les chefs d'accusation. Guy Ouellet, là, on était bien sûr quand on est allé le chercher, puis qu'on l'a accusé, là. Et là, vous avez encore l'enquête sur ce qui s'est passé, sur le rôle de l'UPAC. Et là, ça fait 4 personnes qui sont touchées. Cette personne-là a été réaffectée à des tâches autres. Martin Prudhomme a été relevé de son poste comme directeur général de la Sûreté du Québec. Qu'est-ce qu'il a fait? On le soupçonne de quoi? Il ne le sait pas. Personne n'est au courant, à part les enquêteurs qui mènent le dossier à l'intérieur du Bureau des enquêtes indépendantes. Est-ce que Boulanger est devenu un délateur? Certains me disent que oui, certains me disent que non. C'était le numéro 2 de l'UPAC. S'il y en a un qui sait ce qui s'est passé à l'intérieur de l'UPAC, c'est lui. Puis, est-ce qu'il y a des gens pour corroborer ce qu'il avance? La question est là. Mais on a un problème de police au Québec. Et là, je comprends que la priorité de M. Legault, c'est le français, c'est très bien. Mais on a une priorité aussi, je pense, en sécurité publique. On n'a pas de DG temps plein à la SQ, on n'a pas de DG temps plein à l'UPAC. Et là, il y a des games politiques qui se sont joués. Et je rappelle, j'ai toujours fait confiance à l'UPAC, mais là, je suis rendu à me demander, on a-tu encore besoin de l'UPAC? C'est dans les circonstances. C'est une question. Mais quand je vois ça hier, le 4e, policière, au gradé, qui aurait dirigé, orienté les enquêtes, savez-vous quoi? S'ils sont capables de se faire ça entre eux autres, imaginez ce qu'ils peuvent faire contre des citoyens. Quand des policiers me disent, parfois, là, on a davantage peur de la police que des bandits. Puis je connais des policiers honnêtes, intègres, là, puis qui sont prêts à faire leur travail, puis que leur but dans la vie, c'est protéger le public, puis coincer les tout-croches. Mais des fois, là, tu te dis, coudonc, il y a des ripoux. Ou il y a des gens qui règlent des cas personnels. Les guerre de clans, de factions à l'intérieur du SPVM. Ça a tellement pourri le système qu'il y a des gens qui ont été envoyés à la retraite quasiment de force. Ta sœur ou Badon, on procède contre toi. Il y a des gens qu'on a découragés de faire leur travail. Puis on a vu ce que ça a donné. T'sais, une mise en tutelle du SPVM. Puis quand vous voyez la suite des choses, rien. Pas d'accusation. Fantastique, hein? Après des mois. J'ai un ami avec qui je parlais qui dit, penses-tu qu'on devrait exiger un jour une commission d'enquête publique sur la police? Maudite bonne question. Peut-être. Et si on fait ça, là, on va aussi parler du DPCP. Donc, un certain nombre de questions. Alors, ça pour dire qu'à Québec, là, il me semble que M. Legault, Mme Guilbeault, aurait intérêt à envoyer un certain signal à la population. Puis je ne veux pas que la politique se mêle de la police. Mais là, c'est pas normal qu'on ait deux corps de police qui soient carrément des... Comment je dirais? En fait, qui flottent sans leadership permanent. Puis pour le respect des gens qui sont accusés dans des affaires ou enquêtés, y a-t-il moyen de procéder au Québec sans que ça s'étire? Savez-vous quoi, des fois, je soupçonne, pour fin ce que je vais dire, je soupçonne des enquêteurs d'étirer la sauce. Tu comprends? De faire poireauter, puis le DPCP de se traîner les pieds, puis de ne pas vouloir trop... Tu sais, de jouer, là, dans certains cas, la zone confort, puis on n'est pas pour accuser. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai toujours été assez pour un système de justice qui fonctionne, assez pro-police dans bien des cas. Mais sérieusement, là, commence un peu à perdre peut-être ma naïveté dans ces cas-là, mais puis, c'est pas le pire des systèmes, là. Mais je peux te vous dire, depuis quelques années, là, il y a combien de feux rouges qui se sont allumés. Bon, dans les autres nouvelles, il y a une rentrée perturbée à l'UQAM. Alors, des centaines d'étudiants qui viennent en appui au syndicat des employés de soutien. Alors, là, on est rendu quoi? Hier, c'était la troisième journée de grève. En fait, c'est aujourd'hui. Il y en a cinq, je pense, qui ont été votées. Et là, les deux parties, c'est-à-dire l'employeur, l'UQAM, et le syndicat, s'accusent de mauvaise foi, puis c'est pour ça qu'on n'a pas d'entente. Et là, comme dans tout bon conflit de travail à l'UQAM, les associations étudiantes, enfin, certaines d'entre elles sont sorties. Dans des cas, on a pris des votes pour que les étudiants donnent leur soutien au syndicat, et ce qui veut dire qu'ils ne se présentent pas dans les cours. Et là, j'ai reçu pas mal de courriels. Je vais juste en prendre un. C'est une mère qui nous dit, je vous écoute tous les jours dans la voiture, on ne veut pas donner de publicité à cette grève, mais notre plus jeune est entré à l'université cette semaine pour le programme qui se donne à la faculté de psychologie. Et elle avait très hâte. Or, la semaine dernière, le stress l'a frappée quand elle a appris qu'il y aurait journée de grève. Et là, ce qu'elle constate, c'est que depuis le début de ses moyens de pression, puis là, c'est un exemple parmi d'autres, bien là, vous avez des groupes, des espèces de commandos qui vont dans les classes, puis qui, là, ils veulent vider la classe. Puis c'est pas toujours chic. On se souvient des conflits précédents. Puis il y a des élèves qui veulent rester. Le prof, dans certains cas, va dire, ben là, non, moi, je donne pas le cours. Puis dans d'autres cas, ben là, je vais prendre un vote. Puis là, si ça fait pas l'affaire, on revient, puis là, on se fait plus insistant. Il y a de l'intimidation, on va le dire, là. Il y a de l'intimidation auprès des étudiants pour les amener à quitter le cours ou après également le prof. Bon, quelques autres nouvelles. Dans la presse ce matin, on nous parle du troisième lien, et là, j'imagine la réaction à Québec. Il semble que le bar rayé se trouve dans la région de Québec, dans les battures de Beauport et une partie du chenal de l'île d'Orléans. Et là, c'est une zone de survie pour le bar rayé qui est une espèce menacée. Alors, le parcours qu'on présume du troisième lien pourrait affecter le bar rayé et ce secteur. Alors là, ce matin, est-ce que, parce que le fédéral doit l'évaluer, et disons que ça peut compliquer le processus d'évaluation environnementale. Quand on connaît à quel point les partisans du troisième lien sont passionnés, on va juste leur expliquer que c'est un poisson qui pourrait peut-être nuire au projet ou en tout cas retardé à suivre. Et aussi, un mot pour vous dire, le ministre Jean Boulet va être avec nous plus tard. Il y a des problèmes pour l'émission des certificats de décès au Québec. Habituellement, c'est de 30 à 40 jours ouvrables en moyenne. Ça a des liens, là, c'est pas juste pour avoir un papier, là, c'est que pour donner suite, évidemment, après la mort de quelqu'un, aux procédures de testament, puis d'assurance et tout ça. Alors là, c'est une période de mois d'attente. Et il semble au gouvernement que, puis il y a des explications pour ça, là, que le retour à la normale quant au délai de traitement, c'est prévu pour décembre, la fin de l'année. Alors, soyez patients si un de vos proches est décédé, puis vous dites, il arrive quoi avec le certificat? Bien, ça peut prendre encore un certain temps.